Bonjour à toutes et à tous. Et je vous remercie, je remercie les organisatrices et organisateurs pour avoir organisé ce colloque dans ces conditions. Et puis, je voudrais vous remercier aussi de me permettre de faire cette présentation orale aujourd'hui. Alors, donc, ce que je vais vous présenter concerne des travaux que nous avons réalisés bon, dans le cadre du Pirensen, mais au-delà. Hein, je vous ai fait une slide à la fin pour vous montrer qu'on a eu plusieurs projets qui nous ont permis de réaliser ce travail à l'échelle de la France. Donc, il s'agit donc d'un travail sur le temps long, donc de 1864, je crois, ou 52, je ne sais plus, jusqu'à maintenant. Et donc, il s'agit de faire le lien entre les systèmes agroalimentaires et la qualité des eaux. Alors, je passe, donc je vais avoir deux slides sur nos approches. Hein, donc, nous avons l'approche GRAFS, qui signifie Generalized Representation of Agro-Food System. Donc, en fait, c'est une approche qui permet de compter les flux qui entrent et qui sortent dans un système agroalimentaire. Je dis parfois agri, je dis parfois agro, mais enfin bon, voilà, vous comprendrez. Donc, en fait, cette approche est basée sur la notion de surplus qui a été utilisée pas mal à l'échelle de parcelles. Hein, donc, nous l'utilisons à des échelles plus larges, de territoires, ou ici, souvent de département, parce que c'est à cette échelle que nous avons les données. Donc, il s'agit de comptabiliser donc, tout ce qui entre dans un système, donc les engrais, la fixation symbiotique, les dépôts atmosphériques, les importations de protéines végétales pour le bétail, et aussi les importations pour la nourriture humaine. Et nous totalisons aussi tout ce qui sort en termes d'export et de récolte, etc., et en termes de consommation à la fois par les animaux et les populations. Et la résultante de ces entrées et de ces sorties, eh bien, c'est le surplus qui est en général un très bon indicateur des pertes environnementales. Alors, on pense surtout aux pertes azotées parce que c'est pour ça que ce graphe a été développé, mais pas que. Je veux dire, on a élargi cette approche GRAFS au carbone et au phosphore. Et quant au surplus, bon, il s'agit effectivement des pertes azotées vers les hydrosystèmes, mais aussi vers l'atmosphère à travers les gaz à effet de serre. Alors, cette approche GRAFS, elle est couplée au modèle Riverstrahler que nous avons développé depuis quasi 30 ans dans le cadre du Pirensen et de sa zone atelier. Voilà, ce qui nous permet finalement, à partir de tout ce qui se passe sur les bassins versants, donc les activités humaines à travers les pratiques agricoles et les populations, leur consommation, mais aussi les charges polluantes que nous rejetons à travers les stations de depuration ou plus directement parfois. Voilà, ces apports donc, constituent les contraintes au modèle Riverstrahler de fonctionnement biogéochimique de la qualité des eaux de surface à l'échelle des réseaux hydrographiques. Voilà, donc maintenant je peux passer un petit peu aux trajectoires. Donc, bon, évidemment, nous avons, je crois, 24 dates que nous avons pu identifier, donc à partir des données d'Agreste pour les années récentes, mais aussi à partir d'archives historiques pour les années passées, quoi, les années en deçà de 1955, grosso modo. Voilà. J'ai choisi donc quelques dates qui sont des dates clés d'après ce que nous avons pu déterminer. Voir des trajectoires continues. Donc, ici, 1852, 55, 70 et 2010. Et vous voyez ici l'évolution des systèmes agricoles en France. Donc, on voit qu'en 52 et 1852 et 1955, les systèmes de culture étaient dominés par la culture. Polyculture élevage, donc que ce soit herbager en vert ou fourrager en jaune, et que vers les années 70, eh ben, il y a déjà eu une spécialisation, et cette spécialisation qui s'est vraiment accentuée dans les années 2010. Donc, en dessous, je vous montre le territoire de la Picardie, parce qu'effectivement, la Picardie est un système qui représente une évolution vers une culture céréalière très spécialisée. Donc, on voit la situation en 1852, où on a un petit peu d'apport, mais surtout de la symbiose, de la fixation symbiotique et des apports atmosphériques. Bon, on voit quand même déjà que c'est la grande culture qui domine, mais il y a quand même une proportion d'élevage importante. Il n'y a pas d'importation, il y a quelques exportations certainement vers les territoires voisins, mais on voit bien qu'en 2010, la situation est complètement différente avec des apports en engrais synthétiques très importants et des exportations tout aussi importantes. Voilà, ce qui entre sous forme de fertilisant ressort sous forme d'exportation, alors que la consommation végétale à la fois par la population et par le cheptel est très très faible. On voit ici évidemment une augmentation du surplus d'un facteur plus de 4. Voilà, donc vous avez ici la même slide, la même image, la même trajectoire en haut, donc voilà, mais avec un focus sur la Bretagne, qui contrairement à la Picardie, est axée, elle, depuis longtemps par un élevage, donc assez important, et qui s'est carrément spécialisé vers un élevage intensif avec une dépendance très forte avec l'Amérique latine. Donc pour le soja qui est importé, il y a aussi quelques cultures qui permettent de nourrir le cheptel, mais le cheptel est essentiellement, je veux dire, soutenu par ces importations. Voilà, donc on voit ici que le surplus, il passe de 2 à 75, donc ce n'est pas un facteur 4 comme en Picardie, mais c'est un facteur beaucoup plus important d'une trentaine, quoi. Voilà, donc vous voyez qu'entre 1852 et 2010, on voit que finalement, peut-être il y avait des signaux faibles dès ces moments-là, qu'il y avait déjà une tendance je veux dire, à une certaine orientation de cette agriculture et qui s'est vraiment très fort accentuée à outrance dans les récentes années. Alors, je vous montre ici une trajectoire un peu plus continue pour certains indicateurs, donc la densité de cheptel, la fertilisation minérale azotée, et puis tant qu'à faire, ce qui va avec, ce sont les pesticides. Donc, on voit bien trois grandes périodes, donc jusqu'aux années 50. On voit que c'était quand même une polyculture élevage, enfin, je veux dire, les systèmes étaient en polyculture élevage de manière assez généralisée, et que les années 50, l'après-guerre, a été marquée par une grande accélération, donc une spécialisation progressive et une ouverture des marchés, enfin des exportations et des importations. Et ça s'est accentué jusque dans les années 80-2000, où on voit quand même ces dernières années un ralentissement de tout ça, mais sans une diminution qui serait pourtant nécessaire. Mais cette diminution n'est pas. On la voit parfois, mais je veux dire on maintient un peu une situation assez grave qui est celle des années 80. Voilà, donc à partir de ça, de ces outils, on peut construire des scénarios. Et donc on en a construit deux, enfin on en a construit d'autres, mais on en a construit deux extrêmes en particulier. Et l'approche Graphs nous permet de recréer des systèmes. Des systèmes où on pourrait poursuivre les tendances actuelles, donc on appelle ouverture et spécialisation, donc c'est un système libéral, et puis en agissant sur les terres arables, sur la densité du cheptel, sur les consommations humaines, eh bien, on peut aussi construire un scénario agroécologique où on prend trois aspects en compte, donc un régime alimentaire humain où il y aurait, on consommerait à peu près la moitié des protéines animales que nous consommons actuellement, un système de culture en bio généralisé et une reconnexion élevage grande culture, donc en respectant les réglementations de l'agriculture bio, donc avec un chargement en UGB tout à fait raisonnable qui va avec ces réglementations. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors, si on considère les surplus, hein, vous avez compris que c'était un facteur, enfin, c'était un indicateur assez clé. Donc, 1906, j'en ai même oublié la légende que j'ai pas, qui n'apparaît pas ici, en vert. Hein, bon, ça signifie qu'on était à des surplus de toute façon inférieurs à 35 kilos d'azote par hectare et par an. Et parfois, bon, on peut être à zéro ou même à moins quelque chose quand il y a du nitrogen mining, comme on dit, enfin bon, voilà, quand on épuise un petit peu les sols. Alors, vous avez ici la situation actuelle où on voit quand même que dans certaines régions, les surplus sont très élevés et dépassent largement les 50 kilos d'azote à l'hectare et par an, bon, ce qui est grosso modo une norme, je veux dire, pour avoir une qualité de l'eau un peu moyenne, pas trop catastrophique. Vous voyez qu'on est quand même, on a des surplus très importants. Alors, si, oh, pardon, je reviens. Donc, on voit qu'avec le scénario libéral, donc, on a des. Ben, on applique les recommandations dans le scénario libéral. Donc, parfois, on diminue ces surplus, mais pas assez, hein, puisque bon, on reste encore au-dessus de 50 en Bretagne et dans toute la. Enfin, au nord de la France, grosso modo, sauf dans l'Est, et on voit qu'au sud de la France, eh bien, il y a quand même encore des surplus très, enfin, il y aurait des surplus très importants, alors qu'avec un scénario agroécologique, eh bien, on serait dans une moyenne de 35-50 kilos d'azote à l'hectare et par an, ce qui permet finalement d'envisager des contaminations dans l'environnement beaucoup plus faibles. Voilà, donc ce que nous avons fait en termes de surplus, donc nous l'avons fait aussi dans cette trajectoire pour les gaz à effet de serre. Donc là, je vous montre les gaz à effet de serre en termes de N2O, parce que c'est l'élément qui est surtout lié à l'agriculture. Bien sûr, il y a le méthane, mais je vous en parlerai un tout petit peu après. Voilà, donc en 1906, on voit que les émissions de gaz à effet de serre, ben, c'était relativement faible. Plus c'est rouge, plus c'est mauvais, hein, vous l'avez compris, plus c'est foncé en tout cas. Et on voit qu'en 2014, les gaz à effet de serre en termes de N2O sont très élevés, partout en France, beaucoup dans les régions je veux dire, où il y a des apports d'engrais très, très, très importants. Alors le scénario libéral, ferait que la situation empirerait au niveau des émissions de N2O, alors qu'un scénario agroécologique permettrait de diminuer quand même considérablement ces émissions. Alors là, je vous montre justement les trajectoires pour les trois principaux gaz à effet de serre, enfin, en provenance de l'agriculture, hein, donc le N2O toujours en rose, le CH4 en vert et le CO2 en noir. Donc, on peut regarder le graphique d'en bas qui est à l'échelle de la France. Donc, on voit bien ce qu'on a vu sur les cartes, hein, une augmentation des gaz à effet de serre depuis notamment les années entre 55 et 70, donc l'après-guerre. Et une stabilisation depuis les années 90 jusqu'à maintenant, un scénario ouverture et spécialisation qui augmenterait ces gaz à effet de serre, alors qu'un scénario d'agroécologie, donc autonomie, reconnexion et demi-tarien, donc pour le régime alimentaire, eh bien, on voit que on permettrait on permettrait que les gaz à effet de serre soient beaucoup plus faibles et on reviendrait quasiment aux années 50-60, quoi. Donc, je vous ai montré des grandes régions voilà, que j'avais mises dans l'article qui est publié là en 2019. Je vous montre par exemple, ben, je peux vous parler un petit peu du bassin de la Seine, où on voit que en fait, l'ouverture et la spécialisation et le scénario ARD ont moins d'effet. En fait, ben, c'est lié au fait que on rétablit en faisant ce scénario, ces scénarios, on essaie de poursuivre les tendances en fonction de la régionalisation et de la spécificité des territoires, ce qui fait que, voilà, par exemple, pour le bassin de la Seine, eh ben, on aurait une augmentation du CH4 parce qu'on reconnecte, ben, on reconnecte un élevage qui avait complètement disparu de ce bassin. Voilà. Et bon, voilà, je ne vais pas détailler le Grand Ouest et le Grand Sud-Ouest, le Grand Ouest étant la Bretagne. Donc, bon, on voit qu'on pourrait, y compris en Bretagne, diminuer considérablement ces gaz à effet de serre. Voilà, je vous montre maintenant le résultat en termes de qualité des eaux de surface. Donc, vous voyez le système actuel, 2014, avec bon, ben, des nitrates. Concentration supérieure aux 50 mg, hein, ce qui correspond aux 11,3 mg azote par litre. Donc, on voit que dans le bassin de la Seine, dans la Loire et dans beaucoup de rivières, des grands fleuves français, on voit bien qu'il y a des concentrations en nitrate qui sont encore trop élevées pour permettre une potabilisation et permettre une biodiversité, et en tout cas une absence de bloom phytoplanctonique. Hein, voilà. Et on voit que dans le scénario ouverture et spatialisation, on a une amélioration, toujours par le fait qu'on tient compte de la réglementation, mais bon, qui n'est manifestement pas suffisante, alors que dans le scénario agroécologique, eh bien, on voit qu'on arrive à des niveaux qui sont tout à fait compatibles avec ce qu'on aimerait en tout cas avoir comme concentration dans nos rivières. Voilà, donc en termes de trajectoire à long terme de la qualité de l'eau, bon, je ne suis pas remontée à 1852, là, parce qu'il n'y a pas les données, on pourrait le faire par la modélisation, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Mais en considérant les données qu'on a depuis 1970, là c'est pour le bassin de la Seine, mais on a à peu près l'équivalent pour toutes les grandes zones ateliers des bassins fluviaux qui existent. La Loire, en tout cas, je connais les données, la Garonne moins, mais il y a ce même type de trajectoire, c'est-à-dire pour les nitrates, eh bien, on part des années 71 avec des concentrations de l'ordre de 2 à 4 mg d'azote par litre, et dans les années 2000, forcément, pas tout à fait en 1980, parce qu'il y a, je veux dire, il faut du temps avant que les sols et les aquifères se mettent en équilibre, donc avec les eaux de surface aussi, il faut du temps. Donc on voit que ce maximum est atteint dans les années 2000 et que malgré toutes les réglementations et toutes les actions qui ont été réalisées, hein, donc je ne vais pas les décrire une par une, eh bien on voit qu'on arrive malgré tout peut-être à un peu diminuer ou à stabiliser ces concentrations en nitrate, mais pas à les diminuer franchement. Bon, pour mémoire, je vous montre ici les success stories, donc du coup, du point de vue des phosphates, mais forcément parce que les phosphates viennent surtout des stations d'épuration. Et là, toujours plus facile de fermer un tuyau que de réduire des apports diffus, d'autant que l'agriculture, c'est quand même un enjeu européen avec la politique agricole commune qui est important, auquel on n'a pas osé toucher pendant longtemps. Voilà, et bon, ben, ce success story des phosphates, je reviens aux phosphates, eh bien, on voit que ça a été aussi un success story pour les bloom algo, où maintenant, dans la Seine, on obtient des concentrations qui sont bien plus faibles que celles qu'on obtenait dans les années 80. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Donc on voit que bon, le processus Haber-Bosch, qui est à l'origine donc de toute la fabrication d'engrais minéraux chimiques, et puis la révolution verte, a voulu, parce qu'il fallait, après-guerre, nourrir la population, eh bien, on voit que ce système agroalimentaire qui s'est mondialisé est devenu complètement industriel et que, ben, il a créé des dégâts au niveau de l'environnement. Ça, tout le monde, on l'a tous constaté. Et que, bon, on voit que des scénarios qu'on a co-construits, même s'ils sont encore un peu extrêmes, on s'est inspiré de ce que l'on voit sur le terrain en interrogeant et en travaillant avec les agriculteurs et les acteurs. On voit qu'on peut renverser la tendance si on y met, je veux dire, des moyens et une volonté politique, je pense. Voilà, et on voit quand même qu'il faut des changements assez radicaux pour réconcilier ces problèmes d'agriculture, enfin cette situation de produire de la nourriture d'avoir aussi une eau potable de qualité. Et en même temps, ben, on sait que tous ces problèmes de contamination, ben, ils affectent aussi non seulement le réseau hydrographique, mais la zone côtière. Voilà, donc je pense qu'on a, il serait temps de faire des efforts, de voir comment on peut changer, on change déjà notre manière de vie. Mais bon, on s'attendait à ce que le coronavirus change beaucoup de choses. Peut-être qu'après la deuxième vague, on va avoir des changements significatifs. On va voir. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je remercie aussi tous ces acteurs qui nous ont permis de faire ces travaux.